Et c'est l'heure du journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Contexte très tendu pour les nouvelles négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Les deux puissances se menacent de nouvelles mesures protectionnistes. La bourse américaine fléchit. Réunis en Roumanie, les dirigeants de l'Union européenne s'engagent à rester unis et à protéger les citoyens. En marge du sommet, Emmanuel Macron fait campagne sur le thème de l'environnement. Contre la réforme de la fonction publique, journée de grève et de manifestation en France. Dans les cortèges, beaucoup d'enseignants mobilisés contre le projet de loi de Jean-Michel Blanquer. Y aura-t-il un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d'ADP? En tout cas, la procédure peut se poursuivre, le Conseil constitutionnel l'a validé. Le Fonds monétaire international fait part de son inquiétude. Un conflit commercial prolongé entre les États-Unis et la Chine constituerait une menace pour la croissance mondiale, prévient le FMI, et tout le monde serait perdant. Les négociations commerciales reprennent aujourd'hui à Washington, où vous vous trouvez, Grégory Phillips, mais le climat est à nouveau très tendu avec des menaces de nouvelles mesures protectionnistes. En pleine incertitude, la bourse américaine est secouée et les consommateurs préoccupés, Grégory.
Eh bien oui, parce que si les négociateurs ne trouvent pas d'accord, eh bien on s'achemine vers de nouveaux tarifs et 200 milliards d'importations chinoises seront taxées non plus à 10% mais à 25%. Et ça concrètement, eh bien oui, ça aurait des conséquences pour le consommateur américain. Vous savez, il y a un cabinet ici à Washington, spécialiste des relations commerciales internationales, qui a fait les comptes. Si demain on applique ces tarifs, eh bien ça coûtera en plus chaque année à une famille américaine de 4 personnes 767 $. Les gants de baseball, par exemple, fabriqués en Chine, seront plus chers. Les sacs à main, les voitures, si un constructeur américain, par exemple, a besoin de pièces détachées made in China, eh bien la voiture pourrait être plus chère de 1 900 $. Parce que Aurélie, faut bien comprendre une chose, c'est que ces taxes sont facturées par les douanes aux importateurs américains et pas aux exportateurs chinois. Et donc, dans un deuxième temps, ça retombe sur les consommateurs. Les analystes sont à peu près tous d'accord pour dire qu'une guerre commerciale ne profitera à personne, ni à la Chine, ni aux États-Unis. Et vous avez raison, dans l'attente de l'issue de ces négociations, eh bien la bourse s'inquiète aussi avec un Dow Jones qui à New York à la mi-journée perd un peu plus de 400 points.
Grégory Phillips en direct de Washington. Unis, nous sommes plus forts, déclarent les dirigeants de l'Union européenne. Pas question de Brexit aujourd'hui, Theresa May n'a pas été conviée. Les 27 discutent de l'avenir et dans un texte commun, ils ont dressé une liste de 10 engagements pour l'Europe en faveur de la solidarité, de la démocratie, de l'équité. Et ce sommet à Sibiu, en Roumanie, est aussi l'occasion d'un appel à voter. 21 présidents ont signé une déclaration soulignant l'importance de ces élections de 2019. Il y est notamment écrit « C'est vous qui déciderez quelle voie l'Europe doit suivre ». Emmanuel Macron fait partie des signataires. Le président français très clairement en campagne, Bertrand Galichet.
Bonjour, ça va ? Sur la grande place de Sibiu, une adolescente roumaine, une Allemande d'une vingtaine d'années et une jeune fille belge face à Emmanuel Macron et à 8 autres dirigeants européens leur demandent de faire du climat une priorité absolue. Les 3 militantes réclament des actes et plus seulement des paroles pour protéger l'avenir de leur génération. La pétition a réuni 70 000 signatures à travers toute l'Europe. Les jeunes filles veulent que l'Allemagne se joigne à l'appel de 9 pays européens pour agir maintenant contre le réchauffement climatique. Une sollicitation qui tombe à pic au moment où Emmanuel Macron fait de l'écologie un pivot de sa campagne pour les européennes.
Oui, elles ont raison. J'aurais dit, on a besoin de leur énergie, de leur volonté. Elles ont fait bouger beaucoup de choses. Mais dans toutes les villes d'Europe, il y a une mobilisation extraordinaire depuis 6 mois. Moi-même, ça m'a aussi convaincu encore plus de la nécessité de faire des choses. Ce qu'ils disent est vrai. Leur génération, elle est née, on savait tout, et elle subit les premières conséquences, donc elle veut qu'on bouge plus vite.
Dès son arrivée ici à la mi-journée, dans la petite ville roumaine de Sibiu, le président français s'est posé en garant de l'Europe face aux tenants du nationalisme. Pour Emmanuel Macron, l'Europe est essentielle dans le contrat écologique. Il appelle aussi à aller plus vite et plus fort dans la refondation de l'Union européenne.
Malgré les appels à voter, les jeunes Français boudent les élections européennes. Ça n'est pas nouveau, mais le phénomène est confirmé par une enquête de l'IFOP pour l'ANASEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes. Plus de la moitié des 18-25 ans semblent au courant que le scrutin européen a lieu ce mois-ci, mais seuls 23% des jeunes interrogés pensent aller voter le 26 mai, Rosalie Lafarge.
Oui, et c'est 20 points de moins que l'ensemble des Français. Un phénomène de surabstention justifié par une logique que nous explique Mathieu Kahn, président de l'ANASEJ, le commanditaire du sondage.
On est toujours sur des jeunes qui pensent que les élections ne changent rien et qui ne se sentent pas représentés par leur formation politique. Et qui s'apprêtent à ne pas voter d'abord, puisque l'abstention sera très forte, mais aussi pour la moitié de ceux qui vont voter à manifester un désaccord avec la façon dont l'Union européenne est aujourd'hui gérée.
Tout en méconnaissant le fonctionnement de cette Union européenne, ils sont 70% à se sentir mal informés sur le sujet, et ça se sent pour Hervé Moritz, président de l'association Jeunes Européens France.
Il y a un certain nombre de politiques européennes en fait qui sont tout à fait méconnues, ou bien il y a aussi cette distance temporelle finalement entre le moment où on adopte des lois européennes, des directives, et puis le temps de leur transposition. Parfois ça met 2 ans. Au bout de 2 ans, on a l'impression que c'est l'État qui adopte ces dispositions. Or, ce sont des mesures qui sont prises au niveau européen.
Il existe pourtant un levier, un thème qui pourrait permettre de mobiliser les jeunes, selon Frédéric Dabi de l'Institut IFOP.
Dans leur imaginaire, l'Europe s'occupe d'environnement. Pour l'instant, ça ne percute pas dans un acte de vote. Il y a quand même des ferments qui pourraient favoriser à l'avenir une plus grande participation des jeunes. Pour autant, compte tenu de ce scrutin européen, de son côté original ou cingleton dans le cycle électoral français, d'un vote défouloir, d'une activation du vote sanction que les jeunes déploient moins que la moyenne, il est encore compliqué d'envisager une mobilisation plus forte des jeunes.
Compliqué mais pas impossible si leurs idées sont reprises dans les programmes, si on leur fait mieux comprendre le fonctionnement de l'Union et si le vote blanc est pris en compte, les 2/3 des 18-25 ans assurent que cela pourrait les inciter à aller voter.
Unifier l'Europe pour garantir une paix durable, c'est la principale raison qui a motivé la construction européenne après la Seconde Guerre mondiale. En cette journée de l'Europe, nous rejoignons Isorias en Autriche pour une visite au centre Exil Arte, installé au sein de la prestigieuse Université de musique et des arts du spectacle à Vienne. Ce centre est né d'un constat, beaucoup de compositeurs et musiciens persécutés par les nazis sont tombés dans l'oubli. Exil Arte propose donc une exposition permanente pour redécouvrir ce patrimoine si longtemps ignoré.
Le centre Exil Arte a reçu de nombreuses archives personnelles de compositeurs, envoyées par leurs familles et descendants, des correspondances, des manuscrits musicaux, mais aussi des objets plus personnels que l'on découvre lors de cette exposition. Michael Haas, cofondateur du centre Exil Arte.
You have with each musical estate a chronology.
On découvre avec chacun de ces compositeurs une chronologie de l'exil et de la persécution. Les archives que nous avons rassemblées dans ce centre sont devenues centrales dans notre projet, mais il n'y a pas que ça. Car nous voulons diffuser cette musique et en cela, être installé à l'université de musique est une bonne chose, car cela nous permet de faire connaître cette musique aux nouvelles générations d'étudiants.
Les histoires de ces musiciens, originaires d'Europe centrale pour la plupart, sont toutes très émouvantes, celle d'Alma Rosé notamment. Nièce de Gustav Mahler, cette violoniste de talent fut déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau où elle dirigea l'orchestre de femmes avant d'y mourir en avril 1944. Évidemment, les persécutions nazies et l'exil ont influencé le travail de ces compositeurs. C'est le cas pour Robert Freistadtl qui dut quitter l'Autriche pour le Royaume-Uni.
Lors de son exil, il écrit la musique la plus autrichienne qui soit. Des marches, mais aussi des valses. Il rangea ses compositions dans un tiroir et c'est seulement aujourd'hui qu'on les découvre. C'est un aspect très important car pour tous les compositeurs exposés ici, écrire était un moyen psychologique d'accepter ce qui leur était arrivé, un moyen de se projeter dans ce monde qu'ils avaient connu en l'idéalisant.
Tous les styles sont représentés, le classique, l'opérette, mais aussi la musique de cinéma avec Carol Rathaus, dont on entend à présent une composition. Un patrimoine musical très riche dont il reste pourtant beaucoup à découvrir, selon Michael Haas.
Il y a encore beaucoup de recherches à faire dans les pays qui ont été occupés. La Hollande, par exemple, a découvert très récemment une dizaine de compositeurs d'importance qui furent assassinés dans des camps nazis. Pas étonnant donc que l'on ne pense pas à la Hollande comme un pays de compositeurs, puisque les meilleurs d'entre eux furent assassinés. Et si la Hollande a perdu 12 compositeurs considérables, combien la France en a-t-elle perdu? Jusqu'à présent, il semble que cette question ne se soit pas posée en France. Il y a sûrement encore, dans les caves des Français, des archives qui devraient être sauvegardées et hébergées ailleurs.
Outre l'exposition, le Centre Exil Arte propose des conférences et des concerts tout au long de l'année pour faire vivre la musique de ces compositeurs injustement oubliés.
Un reportage signé Isorias, correspondante de France Culture à Vienne. Bientôt 30 ans après la réunification allemande, Berlin n'a toujours pas d'aéroport international digne de ce nom. Tegel et Schönfeld, les deux aéroports datant de la guerre froide, peinent à contenir un trafic passager qui explose. La capitale allemande est la troisième destination touristique en Europe après Londres et Paris. L'aéroport Willy Brandt aurait dû être inauguré il y a 7 ans, jour pour jour, mais l'échéance a déjà été repoussée 5 fois. Et alors que la nouvelle date est fixée à octobre 2020, une expertise technique vient à nouveau semer le doute. Visite guidée de l'aéroport fantôme avec David Philippot.
Sur le tarmac, les camions de kérosène sont en position, les passerelles aussi. Ne manquent plus que les avions, souligne Engelbert Lütke-Daldrup, le président de la société d'aéroports Berlin-Brandenburg.
Et derrière, vous voyez la tour de contrôle. Encore derrière, à 3 km, les hangars qui sont déjà finis. C'est pour cela que nous sommes bien préparés pour la date d'ouverture prévue en 2020.
Quand on tourne les yeux vers l'intérieur du terminal, les ouvriers sont à l'œuvre un peu partout, ici pour fixer des câbles au plafond d'une future boutique. C'est justement les défauts de l'électrification du bâtiment et des chevilles utilisées qu'un organisme de certification a pointé dans un rapport du mois dernier. Un doute balayé par Engelbert Lütke-Daldrup, qui affirme que ce n'est pas parce que les chevilles ne sont pas aux normes qu'elles posent un problème de sécurité. Après 5 reports de la date d'ouverture, Jan Eder, le chef de la chambre berlinoise de commerce et d'industrie, perd patience.
Tous les jours, les entreprises internationales nous rappellent que ce n'est pas drôle de devoir faire un stop à Francfort ou Munich. Et c'est impensable que l'aéroport de la capitale de la première puissance économique européenne ne propose que 7 destinations directes en long courrier.
Contre par exemple 109 à Paris, avec ses 2 vieux aéroports, Berlin craint de rater le virage du tourisme asiatique, avec 20 millions de passagers en plus annoncés d'ici 2040 dans la capitale allemande.
David Philippot, à Berlin, le pape François promulgue de nouvelles mesures pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église. C'est la suite du sommet qui s'est tenu en février sur le sujet à Rome. Son texte prévoit notamment l'obligation pour les religieux de dénoncer les faits et de dénoncer aussi les évêques qui couvriraient les abus. Les précisions de Mathilde Imberti à Rome.
La mesure clé concerne les évêques, tout d'abord parce qu'ils sont concernés par l'obligation de dénonciation, comme tout religieux. Ils doivent signaler les cas d'abus dont ils ont connaissance et puis ils seront en théorie dénoncés s'ils commettent des abus ou s'ils les couvrent. Le texte qui a force de loi pour toute l'Église catholique est très clair sur ce point. De fait, la dénonciation des faits relevait de l'obligation morale jusqu'ici. C'est un pas en avant historique selon Mgr Charles Chicluna, membre de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il est l'enquêteur en chef du pape sur les affaires d'abus. C'est lui qui a piloté la conférence sur les abus en février au Vatican.
Les gens doivent savoir que les évêques se placent au service des autres. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Et s'ils font du mal, ils doivent être dénoncés. L'autre point essentiel, et je dirais historique, c'est que pour la première fois, une loi universelle de l'Église impose l'obligation de dénoncer, et elle protège celui qui dénonce. Ainsi, cette loi demande à chaque diocèse de mettre en place dans l'année une cellule d'écoute.
Le texte fait référence évidemment aux abus sur mineurs et sur adultes vulnérables, mais également aux abus sur les séminaristes, les prêtres en formation et sur les religieuses. Là aussi, c'est très nouveau. Le texte enfin indique des délais stricts à respecter pour le déroulement des enquêtes. Elles ne devront pas traîner, elles devront se conclure au terme de 90 jours, indique le motu proprio promulgué aujourd'hui par le Vatican.
Pour s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris, quelques 250 députés et sénateurs avaient lancé le mois dernier une procédure de référendum d'initiative partagée. Cet après-midi, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité de cette démarche. Ils vont donc pouvoir aller plus loin, Stéphane Robert. Sans garantie pour autant.
Non, mais c'est tout de même une étape importante qui vient d'être franchie, une étape importante dans une procédure dont on disait qu'elle ne pourrait jamais être mise en œuvre tellement les conditions sont difficiles à réunir. Il fallait déjà faire signer 185 parlementaires, ça n'était jamais arrivé jusqu'ici. Finalement, une alliance entre la droite et la gauche a permis de recueillir l'assentiment de 248 députés et sénateurs le mois dernier. Ensuite, la députée socialiste Valérie Rabault et le député Les Républicains Gilles Carrez ont travaillé de concert avec des constitutionnalistes socialistes pour élaborer un texte recevable par le Conseil constitutionnel. Ils se sont donc tous deux cet après-midi à l'Assemblée nationale félicités de la décision rendue par les sages.
Nous en sommes heureux parce que c'était quand même un gros travail qu'il a fallu mener dans des délais très courts. Et bon, c'est une satisfaction.
Là, nous donnons les clés à nos concitoyens en leur disant « c'est la première fois dans l'histoire de la République que vous avez la possibilité qui vous est donnée de dire que vous ne voulez pas la privatisation d'Aéroports de Paris ». Il y a eu beaucoup de débats pendant le grand débat. Les citoyens ont dit qu'ils voulaient la parole. Cette fois-ci, ils l'ont, qu'ils la prennent. Ils ont 9 mois pour l'utiliser.
Désormais, c'est au ministère de l'Intérieur de prendre les choses en main et de consulter les Français, car avant d'organiser un référendum, il faut les signatures de 10% du corps électoral, soit 4 700 000 Français. 4 700 000, c'est beaucoup, d'autant que tous devront décliner leur identité afin de vérifier qu'ils ne votent pas deux fois. Et ça, évidemment, ça pourra générer des réticences. À l'époque, en 2008, on disait que cette procédure avait été imaginée pour qu'elle ne puisse jamais être utilisée. Finalement, elle pourrait bien aboutir, surtout si une partie des Français se saisissent de l'opportunité pour exprimer via cette consultation leur opposition à Emmanuel Macron.
Stéphane Robert, la réforme de la fonction publique ne sera ni retirée ni renégociée, a prévenu le secrétaire d'État Olivier Dussopt. Les fonctionnaires se sont malgré tout mobilisés aujourd'hui. Les 9 organisations syndicales qui les représentent craignent que la réforme qui sera examinée à l'Assemblée la semaine prochaine ne précarise la fonction publique. Autre projet de loi critiqué, celui de l'école de la confiance élaboré par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Enseignants, personnels de santé et des administrations publiques se sont donc rassemblés dans 150 villes de France. Vous étiez dans le cortège parisien, Manon Clavry.
Au début du cortège, les enseignants portaient des pancartes parfois cyniques. Il y avait « Ne dites pas à ma mère que je suis directrice d'école, elle croit que j'ai un emploi stable à l'éducation nationale ». Mathieu Quéré, enseignant à Sarcelles, s'inquiétait, lui, du nombre d'élèves par classe.
C'est une petite fumisterie, cette histoire des dédoublements en CP et CE1, puisque c'était censé être des classes à 12. C'est le cas quasiment nulle part. Les élèves sont 14 ou 15 dans ces classes-là. Et je ne parle même pas du fait que cette réforme a aussi pu se faire grâce à la prise de moyens sur le secondaire, les collèges et les lycées. Et c'est pour ça que les effectifs explosent dans tous les collèges et dans tous les lycées.
À leur côté, des membres du personnel soignant, Anne-Claire défilait dans sa blouse verte d'infirmière urgentiste.
On a de réels problèmes de lits, on ne peut pas mettre des patients en hospitalisation. Les couloirs sont encombrés, les patients peuvent rester toute la nuit dans les urgences. On demande d'avoir du personnel en plus. On est en sous-effectif et on ne peut pas s'occuper en toute sécurité des patients.
Partis politiques, syndicats, tous s'emboîtaient le pas. Au milieu du cortège orange de la CFDT, Valérie Telbaudet brandissait un message « Touche pas à mon CHSCT ».
C'est une instance qui est là pour construire en coproduction avec l'employeur sur toutes les solutions opérationnelles qui peuvent permettre de prévenir les risques au travail. Ça peut être les risques psychosociaux, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques et toutes les grandes problématiques qui sont liées à la santé, à l'hygiène et à la sécurité. Tout le travail qu'on a accompli depuis 8 ans pour justement traiter de ces sujets, il va être foulé aux pieds et nous, on n'est pas d'accord.
Même s'ils ne sont pas tous aussi critiques vis-à-vis de la réforme de la fonction publique, les syndicats se rejoignent sur une ligne rouge, la réduction du temps disponible pour exercer un mandat syndical.
Un reportage de Manon Clavry à Paris où plus de 30 000 personnes ont manifesté, d'après la CGT. C'est un casse-tête pour La République En Marche. Comment organiser le renouvellement des postes à responsabilité détenus par les députés marcheurs à l'Assemblée? L'idée lancée par Richard Ferrand en début de mandature s'avère compliquée à mettre en œuvre. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Et le groupe La République En Marche tâtonne. Un bureau de groupe spécialement dédié à cette question a été organisé ce matin pour clarifier les postes concernés et la méthode, Anne Fauquemberg.
Une cinquantaine de postes seraient concernés. Les membres du bureau, les vice-présidents de l'Assemblée, présidents de commission, questeurs et autres whips et députés chargés de faire appliquer les consignes de vote en commission. Tous les postes donc, sauf celui de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Tout simplement, impossible, explique Gilles Legendre, le président du groupe LAREM.
Pour une raison très claire, c'est que c'est la Constitution qui fixe le mandat du président de l'Assemblée nationale à 5 ans. Ou à 5 ans, ou le reste du mandat, quand le président a été élu en cours de législature, bien sûr.
Les sortants pourraient également se représenter. C'était la principale préoccupation, alors que le texte initial rédigé en 2017 fermait la porte à cette option. Il y aura donc bien une prime à l'expérience. Gilles Legendre reconnaît l'erreur des débutants.
La démocratie, elle a ses règles, elle a ses exigences, et nous nous y soumettons de façon très forte. Mais là, on allait quand même très très loin, si vous voulez. On a été pris d'un élan peut-être un peu exagéré.
Balayer toutefois les risques de déstabilisation d'un groupe encore parfois inexpérimenté.
Ça n'a duré que quelques semaines au tout début de notre mandat, pendant lequel vous nous moquiez pour notre amateurisme, pour nos erreurs, pour nos bourdes. C'est terminé, cette phase-là.
Un président de groupe qui tient à s'affirmer, à trancher, faiblesses qui lui sont parfois reprochées. Gilles Legendre remettra aussi son mandat en jeu et il se sait sur des charbons ardents.
Ce projet de réforme du règlement intérieur doit être voté d'ici juillet par le groupe La République En Marche. S'il est validé, les renouvellements de postes se feront à la rentrée. Demain vendredi, le temps sera faiblement perturbé à l'ouest. Des averses orageuses toucheront les Pyrénées et la région Midi-Pyrénées dans l'après-midi. Le ciel sera plus lumineux près de la Méditerranée. Il fera 5 à 14 degrés. Le matin, les maximales iront de 14 à 23 degrés du nord au sud jusqu'à 25 dans le Var. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.